VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
17h à Abidjan, 18h à Kinshasa, bienvenue à notre journal. En Côte d'Ivoire, 19 personnes, dont le général Dogbo Blé, ex-homme fort du régime de l'ancien président Laurent Gbagbo, et Anselme Seka Yapo, ex-responsable de la sécurité rapprochée de Simone Gbagbo, épouse de l'ancien chef de l'État, comparaissait ce jeudi à Abidjan devant le tribunal militaire pour assassinat et complicité d'assassinat du général Robert Gueye, ex-chef de la junte militaire ivoirienne. Plus de détails avec John Lindon.
Au total, ce sont 24 militaires qui sont poursuivis pour assassinat et complicité d'assassinat sur le général Gueye Robert, sa famille et sa garde rapprochée. 19 sont en détention, 3 en liberté et 2 autres en fuite, avait précisé à l'AFP le procureur militaire Ange Kessy. Surnommé le père Noël Antrey, Robert Gueye a dirigé la junte militaire installée en Côte d'Ivoire après le coup d'État du 24 décembre 1999 contre le président Henri Konan Bédié. Le général Gueye avait été vaincu par Laurent Gbagbo à la présidentielle d'octobre 2000 et chassé du pouvoir par la rue alors qu'il tentait de s'y maintenir. Le général Gueye, âgé de 61 ans, avait été assassiné ainsi que son épouse, des membres de sa famille et de sa garde rapprochée le 19 septembre 2002, jour d'un coup d'État manqué contre Laurent Gbagbo qui avait entraîné la prise de contrôle du nord et de l'ouest du pays par la rébellion des forces nouvelles.
Au Nigeria, la haute cour fédérale de la capitale Abuja a ordonné la libération sans condition du militant indépendantiste Biafré Nnamdi Kanu, actuellement en détention par les services secrets nigérians. Le juge a souligné que les accusations de terrorisme et soutien du terrorisme n'étaient plus retenues contre lui. Nnamdi Kanu est un membre fondateur du groupe Interdit Peuple Indigène du Biafra et le directeur de Radio Biafra, considéré comme séditieuse par le gouvernement nigérian. Hier, un autre tribunal d'Abuja avait prononcé un non-lieu en sa faveur, l'exonérant des autres charges de conspiration et appartenance à une organisation illégale portée contre lui. L'arrestation de Nnamdi Kanu en octobre avait suscité une vague de protestations dans le sud-est du Nigeria, où la sécession du Biafra, 7 ans après l'indépendance du Nigeria, avait débouché sur un terrible conflit de 3 ans entre 1967 et 1970. Le Niger fête demain le 57e anniversaire de la proclamation de la République. Le président Mahamadou Issoufou doit prononcer ce soir un discours, allocution très attendue, notamment au sujet de la vague d'arrestations dans les rangs de l'armée. Les festivités ont lieu cette année à Maradi, ville frontalière du Nigeria. Les autorités ont maintenu les célébrations alors qu'elles avaient annulé la FIMA pour raison de sécurité. Le reportage de notre correspondant sur place, Abdul Razak Idrissa.
Les festivités lancées depuis le 13 décembre regroupent près de 5000 participants, d'où la question de la sécurité dans une ville située seulement à 25 km de la frontière avec l'État de Kano au Nigeria où sévit la secte islamiste Boko Haram. Les habitants et les participants ne semblent pourtant pas être inquiets.
Depuis même l'avènement de Boko Haram, plus de 6 ans de cela, jamais il n'y a eu aucun acte suspect dans cette ville de Maradi. Donc, moi, de mon point de vue, il n'y a pas un problème sécuritaire. Seulement, ce sont les autorités qui veulent perdre ça, comme il y a un problème sécuritaire, ils embêtent un peu les gens.
Qu'est-ce qu'il y a dans cette escroque ?
Il y a tellement de sécurité, à tel point qu'ils en sont même inquiets. Vu le déploiement des forces de l'ordre sur les différents endroits qui vont abriter les différentes manifestations et les différentes fouilles qui sont opérées, les agents de sécurité passent la nuit, ils sont là jour et nuit, depuis plusieurs jours pour veiller à ce que toute personne suspecte soit repérée et éventuellement arrêtée. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'inquiétude.
Pas de soucis également du côté des organisateurs. Kala Ankoraou est le principal.
Le risque zéro n'existe pas. Mais nous prenons des dispositions. Nous savons que cette région n'a pas vécu des attaques de Boko Haram. Et nous continuons à espérer que la région de Maradi continuera à être préservée des attaques de la secte Boko Haram. C'est des manifestations diverses. Il y en a qui se déroulent à 10 km d'ici, à l'hippodrome, la Fantasia. Il y en a qui se déroulent au Grand Marché. Il y en a qui se déroulent à Madarumfa, à 30 km. Il y en a qui se déroulent à la tribune, au plateau, à côté du gouvernorat. Donc, ce n'est pas à un endroit concentré où il est plus facile d'atteindre des cibles.
Il n'y a donc pas de peur.
Nous n'avons pas de soucis.
Un important dispositif militaire et policier est mis en place dans la ville de Maradi et à ses alentours. Le clou des activités sera le 18 décembre prochain, jour anniversaire de la proclamation de la République du Niger, avec un important défilé militaire devant le président de la République, Issoufou Mahamadou. Abdelrazak Idrissa à Maradi pour VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Crise burundaise, visite du ministre britannique aux Affaires africaines à Bujumbura. James Doddridge a eu des consultations aujourd'hui avec le ministre burundais des Affaires étrangères, Alain-Aimé Nyamitwe. Il a exhorté le gouvernement du président Pierre Nkurunziza à engager des négociations pour mettre fin aux violences dans son pays. Pour sa part, l'Union africaine se dit déterminée à ne pas laisser un autre génocide se dérouler sur le continent. C'est ce qu'a fait savoir ce jeudi son conseil de paix et de sécurité après une réunion à Addis Abeba. À New York, l'ambassade américaine à l'ONU, Samantha Power, a demandé aux Nations Unies de se préparer plus activement à agir au Burundi. Le secrétaire général Ban Ki-moon envoie son émissaire dans la région, Bagassi Koura.
Pour l'instant, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas assez de planification d'urgence, a affirmé Samantha Power devant la presse aux Nations Unies, jugeant la situation au Burundi horrible. Elle a rappelé les images de cadavres retrouvés dans les rues, les mains liées et avec des balles dans la tête. Elle a dit craindre le pire. Le Conseil de sécurité a envisagé le mois dernier de déployer des casques bleus au Burundi. La Russie, la Chine et les membres africains du Conseil sont plutôt réticents à cette idée. Ban Ki-moon a annoncé que son émissaire pour le Burundi, Jamal Ben Omar, se rendra sur place dans les prochains jours. Il va s'entretenir avec l'Union africaine, les pays de la région et le gouvernement burundais pour tenter de promouvoir un dialogue crédible et sans exclusive. Depuis le début de la crise, des centaines de personnes ont été tuées et plus de 200 000 Burundais ont fui le pays.
En Afrique du Sud, les manifestations se multiplient pour demander la démission du président Jacob Zuma. Les protestataires accusent le chef de l'État de mettre en péril l'économie sud-africaine pour servir ses intérêts personnels suite à la récente valse de ministres à la tête du ministère des Finances. Timothée Donangmaï a recueilli l'analyse du professeur André Thomas Hausen de l'Université d'Afrique du Sud à Pretoria.
Le président Zuma est en effet un premier ministre. Il est élu par le Parlement et la majorité simple de l'Assemblée du Parlement peut aussi le substituer. Ce n'est pas un président élu directement par le peuple. Ainsi, le Parlement, c'est-à-dire la majorité dans le Parlement, le parti ANC, a le pouvoir de le remplacer. C'est ainsi que le président Thabo Mbeki est parti quand il a compris qu'il n'avait plus de majorité dans l'Assemblée nationale et quand il a compris que son parti allait même appuyer un vote pour sa substitution, c'est alors qu'il s'est démissionné. Si ce signal parvient à Zuma, oui, là aussi, il n'aurait peut-être pas d'autre chance que de se démissionner. Il y a un encouragement aussi constitutionnel. Le président en Afrique du Sud, s'il est remplacé, perd ses privilèges. Le président qui part de sa propre volonté, qui se démissionne, ne perd pas le privilège. Il sera bien tenu pour le reste de sa vie.
Le professeur André Thomas Hausen de l'Université d'Afrique du Sud, de l'Université d'Afrique du Sud à Pretoria. Et pour terminer, est-ce l'accord tant attendu en Libye? En tout cas, un document a été signé aujourd'hui au Maroc par les parties libyennes, Nicolas Pineau.
C'est un jour historique pour la Libye, a déclaré l'émissaire de l'ONU Martin Kobler lors de la cérémonie de signature. Des députés et des hommes politiques libyens ont donc signé un accord pour sortir le pays du chaos, et ce, malgré l'objection des deux parlements rivaux qui l'ont rejeté d'avance. L'accord prévoit la mise en place d'un gouvernement d'union nationale et d'un conseil présidentiel au début d'une période de transition qui devra s'achever par des élections législatives. Dès hier, le président du Conseil général national, Nouri Abou Sarmeyn, avait annoncé qu'un tel accord n'avait aucune légitimité. Celui qui n'a pas été mandaté par le CGN pour signer ou paraffer un accord en son nom est et restera sans légitimité, avait-il déclaré depuis Tripoli. M. Abou Sarmeyn avait rencontré mardi à Malte Aguila Saleh, président du Parlement rival, celui qui est reconnu par la communauté internationale et siégeant à l'Est. C'est une première depuis l'établissement en août 2014 d'un pouvoir parallèle à Tripoli à la suite de la prise de la capitale par une coalition de milices Fajr Libya.
Et pour terminer, le Pakistan confirme sa participation à la coalition de 34 pays majoritairement musulmans contre le terrorisme. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.